Avoir 3 ans n'apportait décidément rien de bon. Les Nippons avaient raison de situer à cet âge la fin de l'état divin. Quelque chose, déjà, s'était perdu, plus précieux que tout et qui ne se récupérerait pas. Une forme de confiance en la pérennité bienveillante du monde. J'avais entendu mes parents dire que bientôt j'irais à l'école maternelle japonaise. Propos qui n'auguraient que désastre. Quoi ? Quitter le jardin ? Me joindre à un troupeau d'enfants ? Quelle idée ! Il y avait plus grave. Au sein même du jardin, il y avait une inquiétude. La nature avait atteint une sorte de saturation. Les arbres étaient trop verts, trop feuillus, l'herbe était trop riche, les fleurs explosaient comme si elles avaient trop mangé. Depuis la deuxième moitié du mois d'août, les plantes avaient la moue gavée des lendemains d'orgie. La force vitale que j'avais sentie contenue en toute chose était en train de se transformer en lourdeur. Sans le savoir, je voyais se révéler à moi l'une des lois les plus effrayantes de l'univers. Ce qui n'avance pas recule. Il y a la croissance et puis il y a la décrépitude. Entre les deux, il n'y a rien. L'apogée, ça n'existe pas, c'est une illusion. Ainsi, il n'y avait pas d'été. Il y avait un long printemps, une montée spectaculaire des sèves et des désirs, mais dès que cette poussée était finie, c'était déjà la chute. Dès le 15 août, la mort l'emporte. Certes, aucune feuille ne donne le moindre signe de roussissement. Certes, les arbres sont si chevelus que leur calvitie prochaine est inimaginable. Les verdures sont plus plantureuses que jamais, les parterres prospèrent, cela sent l'âge d'or. Et pourtant, ce n'est pas l'âge d'or. Pour cette raison que la stabilité n'existe pas. À 3 ans, je ne savais rien de cela. J'étais à des années-lumière du roi qui se meurt en s'écriant « Ce qui doit finir est déjà fini ». J'aurais été incapable de formuler les termes de mon angoisse. Mais je sentais, oui, je sentais qu'une agonie se préparait. La nature en faisait trop, cela cachait quelque chose. Si j'en avais parlé avec autrui, on m'aurait expliqué le cycle des saisons. À 3 ans, on ne se souvient pas de l'année dernière. On n'a pas eu à constater l'éternel retour de l'identique, et une saison nouvelle est un désastre irréversible. À 2 ans, on ne remarque pas ces changements et on s'en fiche. À 4 ans, on les remarque, mais le souvenir de l'année précédente les banalise et les dédramatise. À 3 ans, l'anxiété est absolue. On remarque tout et on ne comprend rien. Il n'y a aucune jurisprudence mentale à consulter pour s'apaiser. À 3 ans, on n'a pas non plus le réflexe de demander à autrui une explication. On n'est pas forcément conscient que les grands ont plus d'expérience. Et on n'a peut-être pas tort. À 3 ans, on est un martien. Il est passionnant, mais terrifiant d'être un martien qui débarque. On observe des phénomènes inédits, opaques. On ne possède aucune clé. Il faut inventer les lois à partir de ses seules observations. Il faut être aristotélicien 24 heures sur 24, ce qui est particulièrement exténuant quand on n'a jamais entendu parler des Grecs. Une hirondelle ne fait pas le printemps. À 3 ans, on aimerait savoir à partir de quel nombre d'hirondelles on peut croire en quelque chose. Une fleur qui meurt ne fait pas l'automne. 2 cadavres de fleurs non plus, sans doute. Il n'empêche que l'inquiétude s'installe. À partir de combien d'agonie florale faudra-t-il, dans sa tête, tirer le signal d'alarme de la mort en marche ? Champollion d'un chaos grandissant, je me réfugiais dans le tête-à-tête avec ma toupie. Je sentais qu'elle avait des informations cruciales à me livrer. Hélas, je n'entendais pas son langage. Fin août, midi. C'est l'heure du supplice. Va nourrir les carpes. Courage, tu l'as fait tant de fois déjà. Tu as survécu, ce n'est qu'un très mauvais moment à passer. Je prends les galettes de riz dans la remise. Je vais à l'étang de pierre. Le soleil perpendiculaire fait scintiller l'eau comme de l'aluminium. Cette surface lisse et brillante ne tarde pas à être gâchée par 3 bonds successifs. Jésus, Marie et Joseph m'ont vu et sautent, ce qui est leur manière d'appeler les autres à table. Quand ils ont fini de se prendre pour des poissons volants, ce qui, vu leur grosseur, est parfaitement obscène, ils installent leur bouche ouverte au ras de la flotte et attendent. Je jette des fragments de bouffe. Le bouquet de gueules se lance dessus. Les tuyaux ouverts avalent. Lorsqu'ils ont dégluti, ils réclament de plus belle. Leur gorge est si béante qu'en se penchant un peu, on y verrait jusqu'à leur estomac. En continuant à distribuer la pitance, je suis de plus en plus obnubilée par ce que la Trinité me montre. Normalement, les créatures cachent l'intérieur de leur corps. Que se passerait-il si les gens exhibaient leurs entrailles? Les carpes ont enfreint ce tabou primordial. Elles m'imposent la vision de leur tube digestif à l'air. Tu trouves ça répugnant? À l'intérieur de ton ventre, c'est la même chose. Si ce spectacle t'obsède tellement, c'est peut-être parce que tu t'y reconnais. Crois-tu que ton espèce soit différente? Les tiens mangent moins salement, mais ils mangent. Et dans ta mère, dans ta sœur, c'est comme ça aussi. Et toi, que crois-tu être d'autre? Tu es un tube sorti d'un tube. Ces derniers temps, tu as eu l'impression glorieuse d'évoluer, de devenir de la matière pensante. Foutaise. La bouche des carpes te rendrait-elle si malade si tu n'y voyais ton miroir ignoble? Souviens-toi que tu es tube et que tube tu redeviendras. Je fais taire cette voix qui me dit des horreurs. Depuis 2 semaines, j'affronte chaque midi le bassin des poissons et je constate que, loin de m'habituer à cette abomination, j'y suis de plus en plus sensible. Et si ce dégoût que j'avais pris pour une minauderie débile, un caprice, était un message sacré? En ce cas, il faut que je l'affronte pour le comprendre. Il faut que je laisse parler la voix. Regarde donc, regarde de tous tes yeux. La vie, c'est ce que tu vois. De la membrane, de la tripe, un trou sans fond qui exige d'être rempli. La vie est ce tuyau qui avale et qui reste vide. Mes pieds sont au bord de l'étang. Je les observe avec suspicion. Je ne suis plus sur deux. Mes yeux remontent et regardent le jardin. Il n'est plus cet écrin qui me protégeait. Cet enclos de perfection. Il contient la mort. Entre la vie, des bouches de carpe qui déglutissent, et la mort, des végétaux en lente putréfaction, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui te donne le moins envie de vomir? Je ne réfléchis plus. Je tremble. Mes yeux rechutent vers les gueules des animaux. J'ai froid. J'ai un haut-le-cœur. Mes jambes ne me portent plus. Je ne lutte plus. Hypnotisée, je me laisse tomber dans le bassin. Ma tête heurte le fond de pierre. La douleur du choc disparaît presque aussitôt. Mon corps, devenu indépendant de mes volontés, se retourne. Et je me retrouve à l'horizontale, à mi-profondeur, comme si je faisais la planche 1 mètre sous l'eau. Et là, je ne bouge plus. Le calme se rétablit autour de moi. Mon angoisse a fondu. Je me sens très bien. C'est drôle. La dernière fois que je me suis noyée, il y avait en moi une révolte, une rage, le besoin puissant de me tirer de là. Cette fois-ci, pas du tout. Il est vrai que je l'ai choisi. Je ne sens même pas que l'air me manque. Délicieusement sereine, j'observe le ciel à travers la surface de l'étang. La lumière du soleil n'est jamais aussi belle que vue par-dessous l'eau. Je l'avais déjà pensé lors de la première noyade. Je me sens bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Le monde vu d'ici me convient à merveille. Le liquide m'a à ce point digéré que je ne provoque plus aucun remous. Écœurées par mon intrusion, les carpes se sont tapies dans un coin et ne bougent plus. Le fluide s'est figé en un calme d'eau morte qui me permet de contempler les arbres du jardin comme au travers d'un monocle géant. Je choisis de ne plus regarder que les bambous. Rien dans notre univers ne mérite autant d'être admiré que les bambous. Le mètre d'épaisseur aquatique qui me sépare d'eux exalte leur beauté. Je souris de bonheur. Soudain, quelque chose s'interpose entre les bambous et moi. Une frêle silhouette humaine apparaît qui se penche vers moi. Je pense avec ennui que cette personne va vouloir me repêcher. On ne peut même plus se suicider tranquille. Mais non. Le prisme de l'eau me révèle peu à peu les traits de l'humain qui m'a repéré. C'est Kashima-san. Je cesse aussitôt d'avoir peur. Elle est une vraie japonaise du passé et en plus elle me déteste. Deux bonnes raisons pour qu'elle ne me sauve pas. De fait, le visage élégant de Kashima-san demeure impassible. Sans bouger, elle me regarde dans les yeux. Voit-elle que je suis contente? Je ne sais pas. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'une nippone du temps jadis. Une seule chose est sûre, cette femme me laissera la mort sauve. À mi-chemin entre l'au-delà et le jardin, je parle sans bruit dans mon crâne. Je savais qu'on finirait par s'entendre, Kashima-san. Tout va bien maintenant. Quand je me noyais dans la mer et que je voyais les gens qui, sur la plage, me regardaient sans essayer de me sauver, ça me rendait malade. À présent, grâce à toi, je les comprends. Ils étaient aussi calmes que toi. Ils ne voulaient pas perturber l'ordre de l'univers, lequel exigeait ma mort par l'eau. Ils savaient que cela ne servait à rien de me sauver. Celui qui doit être noyé sera noyé. La preuve, c'est que ma mère m'a tiré de l'eau et que je m'y retrouve quand même. Est-ce une illusion? Il me semble que Kashima-san sourit. Tu as raison de sourire. Quand le destin de quelqu'un s'accomplit, il faut sourire. Je suis heureuse de savoir que je n'irai plus jamais nourrir les carpes et que je ne quitterai jamais le Japon. Cette fois, je le vois distinctement. Kashima-san sourit. Elle me sourit enfin. Et puis elle s'en va, sans se presser. Je suis désormais en tête à tête avec la mort. Je sais avec certitude que Kashima-san ne préviendra personne. J'ai raison. Crever prend du temps. Cela fait une éternité que je suis entre deux eaux. Je repense à Kashima-san. Il n'y a pas plus fascinant que l'expression d'un être humain qui vous regarde mourir sans tenter de vous sauver. Il lui suffit de plonger la main dans le bassin pour ramener à la vie une enfant de 3 ans. Mais si elle l'avait fait, elle n'eût pas été Kashima-san. Ce qui me soulage le plus dans ce qui m'arrive, c'est que je n'aurai plus peur de la mort. En 1945, à Okinawa, île du sud du Japon, il s'est passé... quoi? Je ne trouve pas de mots pour qualifier cela. C'était juste après la capitulation. Les habitants d'Okinawa savaient que la guerre était perdue et que les Américains, déjà débarqués sur leur île, allaient marcher sur leur territoire entier. Ils savaient aussi que la nouvelle consigne était de ne plus se battre. Là s'arrêtait leur information. Leur chef leur avait dit, naguère, que les Américains les tueraient jusqu'au dernier. Les insulaires en étaient restés à cette conviction. Et quand les soldats blancs avaient commencé à avancer, la population avait commencé à reculer. Et ils avaient reculé au fur et à mesure que l'ennemi victorieux gagnait du terrain. Et ils étaient arrivés à l'extrémité de l'île, qui se terminait en une longue falaise abrupte surplombant la mer. Et comme ils étaient persuadés qu'on allait les tuer, l'immense majorité d'entre eux s'était jetée dans la mort du haut du promontoire. La falaise était très élevée. Et en dessous d'elle, le rivage était hérissé de récifs tranchants. Aucun de ceux qui s'y sont précipités n'a survécu. Quand les Américains sont arrivés, ils ont été horrifiés de ce qu'ils ont découvert. En 1989, je suis allée voir cette falaise. Rien, pas même une pancarte, n'indique ce qui s'y est passé. Des milliers de gens s'y sont suicidés en quelques heures sans que le lieu en paraisse affecté. La mer a avalé les corps qui s'étaient éclatés sur les rochers. L'eau reste une mort plus courante au Japon que le seppuku. Il est impossible d'être à cet endroit sans essayer de se mettre dans la peau de ceux qui s'y sont donnés là cette mort collective. Il est probable que parmi eux, beaucoup se sont suicidés par crainte d'être torturés. Il est vraisemblable aussi que la splendeur de ce lieu a encouragé beaucoup d'entre eux à commettre cet acte qui symbolisait la superbe patriotique. Il n'en reste pas moins que l'équation première de cette hécatombe est celle-ci. Du haut de cette magnifique falaise, des milliers de gens se sont tués parce qu'ils ne voulaient pas être tués. Des milliers de gens se sont jetés dans la mort parce qu'ils avaient peur de la mort. Il y a là une logique du paradoxe qui me sidère. Il ne s'agit pas d'approuver ou de désapprouver un tel geste. Cela leur ferait une belle jambe d'ailleurs au cadavre d'Okinawa. Mais je persiste à penser que la meilleure raison pour se suicider, c'est la peur de la mort. À 3 ans, je ne sais rien de tout cela. J'attends de crever dans le bassin aux carpes. Je dois approcher du grand moment car je commence à voir défiler ma vie. Est-ce parce que cette dernière fut courte, je ne parviens pas à voir les détails de mon existence? C'est comme quand on est dans un train si rapide qu'on ne parvient pas à lire le nom des gares supposées sans importance. Cela m'est égal. Je m'enfonce dans une merveilleuse absence d'angoisse. La troisième personne du singulier reprend peu à peu possession du « je » qui m'a servi pendant 6 mois. La chose, de moins en moins vivante, se sent redevenir le tube qu'elle n'a peut-être jamais cessé d'être. Bientôt, le corps ne sera plus que tuyau. Il se laissera envahir par l'élément adoré qui donne la mort. Enfin, désencombré de ses fonctions inutiles, la canalisation livrera passage à l'eau, à plus rien d'autre. Soudain, une main saisit le paquet mourant par la peau du cou, le secoue et le rend brutalement, douloureusement, à la première personne du singulier. L'air entre mes poumons, qui s'était pris pour des bronchies. Ça fait mal, je hurle. Je suis en vie. Les yeux me sont rendus. Je vois que c'est Nishio-san qui m'a tiré de l'eau. Elle crie, elle appelle à l'aide. Elle est en vie, elle aussi. Elle court dans la maison en me portant dans ses bras. Elle trouve ma mère qui, en me voyant, s'écrie « On file à l'hôpital de Kobe !» Nishio-san l'accompagne en courant jusqu'à la voiture. Elle lui baragouine, en un mélange de japonais, de français, d'anglais et de gémissements, dans quel état elle m'a repêché. Maman me jette sur le siège arrière et démarre. Elle roule à tombeau ouvert, ce qui est absurde quand on cherche à sauver la vie de quelqu'un. Elle doit penser que je suis inconsciente car elle m'explique ce qui m'est arrivé. « Tu nourrissais les poissons, tu as glissé, tu es tombé dans le bassin. En temps normal, tu aurais nagé sans aucun problème, mais dans ta chute, ton front a cogné contre le fond en pierre et tu as perdu connaissance. » Je l'écoute avec perplexité. Je sais très bien que ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Elle insiste en me demandant « Tu comprends ?»« Oui, je comprends qu'il ne faut pas lui dire la vérité. Je comprends qu'il vaut mieux s'en tenir à cette version officielle. D'ailleurs, je ne vois même pas avec quel mot je pourrais lui raconter ça, je ne connais pas le terme suicide. Il y a cependant une chose que je tiens à déclarer. Je ne veux plus jamais nourrir les carpes. Bien sûr, je comprends, tu as peur de tomber dans l'eau à nouveau. Je te promets que tu ne les nourriras plus. C'est toujours ça de gagner. Mon geste n'aura pas été vain. Je te prendrai dans mes bras et nous irons ensemble leur donner à manger. Je ferme les yeux. Tout est à recommencer. À l'hôpital, ma mère m'amène aux urgences. Elle me dit « Tu as un trou dans la tête. » Ça, c'est une nouvelle. Je suis ravie et je veux en savoir plus. Où ça ? Au front, là où tu t'es cogné. Un grand trou ? Oui, tu perds beaucoup de sang. Elle met ses doigts sur ma tempe et me les montre couverts de sang. Fascinée, je trempe mon index dans la plaie béante, sans savoir que je souligne ma propre folie. Je sens une fente. Oui, ta peau est ouverte. Je regarde mon sang avec délectation. Je veux me regarder dans un miroir. Je veux voir le trou dans ma tête. Calme-toi. Les infirmières s'occupent de moi et rassurent ma mère. Je n'écoute pas ce qu'elle se raconte. Je pense au trou dans mon front. Puisque je n'ai pas le droit de le voir, je l'imagine. J'imagine mon crâne troué sur le côté. Je frissonne d'extase. J'y mets le doigt à nouveau. Je veux entrer par le trou dans ma tête et explorer l'intérieur. Une infirmière me prend doucement la main pour m'en empêcher. On ne possède même pas son propre corps. On va te recoudre le front, dit ma mère. Avec du fil et une aiguille? C'est à peu près ça. Je n'ai pas le souvenir que l'on m'ait endormie. Je crois voir encore le médecin au-dessus de moi, avec un gros fil noir et une aiguille, en train de recoudre la boutonnière de ma tempe, comme un couturier retouchant un modèle à même la cliente. Ainsi s'acheva ce qui fut ma première, et à ce jour ma seule, tentative de suicide. Je n'ai jamais dit à mes parents que ce n'était pas un accident. Je n'ai jamais raconté non plus l'étrange absence de réaction de Kashima-san. Nul doute que cela lui eût valu des ennuis. Elle me haïssait et avait dû se réjouir de ma mort prochaine. Je n'exclus cependant pas la possibilité qu'elle ait soupçonné la vraie nature de mon geste et qu'elle ait respecté mon choix. Éprouvais-je du dépit d'avoir eu la vie sauve? Oui. Étais-je pourtant soulagée d'avoir été repêchée à temps? Oui. J'optais donc pour l'indifférence. Cela m'était égal, au fond, d'être morte ou vive. Ce n'était que partie remise. Encore aujourd'hui, je suis incapable de trancher. Eût-il mieux valu que le chemin s'arrêtât fin août 1970 dans le bassin aux carpes? Comment le savoir? L'existence ne m'a jamais ennuyée, mais qui me dit que cela n'eût pas été plus intéressant de l'autre côté? Ce n'est pas très grave. De toute façon, le salut n'est qu'un faux fuyant. Un jour, il n'y aura plus moyen d'atermoyer, et même les personnes les mieux intentionnées du monde n'y pourront rien. Ce dont je me souviens avec certitude, c'est que je me sentais bien quand j'étais entre deux eaux. Parfois, je me demande si je n'ai pas rêvé, si cette aventure fondatrice n'est pas un fantasme. Je vais alors me regarder dans le miroir et je vois, sur ma tempe gauche, une cicatrice d'une éloquence admirable. Ensuite, il ne s'est plus rien passé.
Merci et à bientôt chez Audible.